écoutez De la Pointe aux âmes, une émission écrite et présentée par Robert Giroux. Aujourd'hui, il sera question de la suite pour guitare seule, qui vit le jour à la cour de Louis XIV et se porte royalement bien encore de nos jours. Deux émissions pour en traiter. Aujourd'hui, les 18e et 19e siècles et le mois prochain, le 20e et le début du 21e siècle qui est le nôtre. Je vous promets que nous allons entendre beaucoup de belles et bonnes musiques. Simon Martin est aux manettes, prêt à décoller. Soyez les bienvenus sur le 106.8 Radio Grand Ciel Chartres et mon bonjour à vous. Peut-être vous souvient-il, dans une réunion de famille ou autre, que l'assemblée soit interrompue dans ses conversations pour observer un jeune enfant tout occupé à faire fonctionner son esprit pour comprendre une chose, pour trouver une solution à un problème qui se pose à lui, ou bien simplement pour faire fonctionner un objet qu'il découvre, son cadeau de Noël par exemple. Généralement, on est admiratif face à l'éveil d'un enfant, et louant ses qualités, on use souvent de cette formule « il a de la suite dans les idées ». Ceci indiquant que l'enfant, partant d'un élément qu'il lui semble comprendre, a su organiser sa progression, poser strate après strate une base pertinente à son jugement et à sa pensée, réalisant confusément que l'ordonnancement de chaque élément de cette pensée le conduira au bon ordonnancement de toute sa pensée, et qu'un usage réfléchi de tout cela lui apportera sinon la solution, du moins une solution. Ainsi progresse-t-on lorsque l'on est enfant. Et ainsi progresse-t-on toujours. La suite, donc, fait de ce qui vient après. C'est l'évidence, me direz-vous. Mais l'effet produit sur nous et notre auditoire variera du tout au tout, selon que l'on sera un sensible, un intuitif, un rationnel, un imaginatif, un esprit bâtisseur, un contradicteur ou un méditatif. Quelle que soit notre nature, notre esprit décide d'un trajet, d'un fil à suivre, et au travers de l'action conséquente, notre personnalité, notre caractère, nos qualités trouveront à s'exprimer. Et pourquoi faudrait-il que les musiciens diffèrent en quoi que ce soit du reste du monde? Ainsi, chaque instrument a-t-il dans son répertoire dédié un certain éventail de suites, idéales à le faire briller en ce qu'il a de plus unique? Les suites de violoncelle, de luth, de clavier de Jean-Sébastien Bach sont des exemples parmi les plus connus de cette forme d'organisation de la pensée et du langage musical. L'œuvre de Bach a tout autant reconsidéré le langage soliste que le mouvement d'orchestre, la place et la définition du travail de chacun. Dans cette œuvre immense, tout comme dans chaque élément qui en fut part, le principe de suite était récurrent, quasi constant. Il y eut les suites fameuses que je vous mentionnais, mais aussi ses somptueuses suites orchestrales. Hormis son colossal travail d'écriture, Bach a aussi créé l'orchestre contemporain de son temps et redéfini les voix qui allaient porter son chant. Exactement ce qu'a fait Pierre Boulez à l'IRCAM ou ailleurs. C'est avec Pierre Attaignant que s'officialise l'emploi du mot « suite » dans la terminologie de l'écriture musicale. Nous sommes à Paris, France, début du XVIe siècle. Pierre Attaignant est maître de musique, mais surtout imprimeur de musique du roi de France. Il a son atelier rue des Écoles, qui est l'actuel quartier de la Sorbonne, qui est le quartier des imprimeurs à l'époque. Il fera imprimer et paraître sur demande du souverain plusieurs sommes qu'il intitulera « Livres de musique ». Il existe un enregistrement d'un choix de ses œuvres, un CD paru chez Astray. Hopkinson Smith en est l'interprète. Je vous recommande plus que vivement l'achat et l'écoute de ce travail magnifique. Je consacrerai d'ailleurs une prochaine émission à Hopkinson Smith. C'est néanmoins avec Robert de Vizet que l'affaire devient sérieuse. De Vizet, dans la descendance directe, artistiquement s'entend, de Francisco Corbetta, seul véritable détenteur du titre de guitariste officiel de la cour de France. Robert de Vizet saura prendre dans cette cour une position telle que la destinée de la guitare dans notre pays s'en trouvera sinon assurée, du moins beaucoup moins incertaine. Mais que diable vient de faire ici Louis XIV et sa cour d'en pomponner, me direz-vous. N'était-on pas supposé parler de guitare? Je vous sens un rien agacé. Ne le niez pas, je vous vois. C'est que le roi s'est amouraché de la guitare, figurez-vous, tellement qu'il lui consacre plusieurs heures de ses journées, ainsi qu'à la danse et au chant. Robert Duviset fera paraître plusieurs livres d'œuvres destinés tant au théorbe qu'à la guitare. L'instrument devenait donc instrument de concert, au même rang que le clavecin, le violon ou la flûte. Alors libre à chacun d'aimer ou non Louis XIV, mais ici son rôle sera vital et son mérite aussi immense qu'incontestable, comme il le sera de façon générale pour toute la vie culturelle de l'Europe du XVIIIe siècle. Et c'est un fervent de démocratie qui vous parle. Sait-on seulement si la guitare aurait survécu, après Corbetta et Duviset, à ce qui était alors un engouement voué à être provisoire? Peut-être, sans doute même, mais entourer la guitare de tous ses soins et la veiller comme le fit le roi de France assura à l'instrument d'entrer au cénacle des instruments de concert et fit que sa voix fut préservée, distincte, entendue et respectée. On ne peut ignorer ou minorer ceci, tout simplement. Écoutons à présent une splendide interprétation de Robert Duviset par Raphaël Andia dans la manière la plus respectueuse possible du modèle original. Vous entendrez ensuite Julian Bream jouer cette musique sur une guitare de l'ère moderne, six cordes donc, avec un jeu proche de celui d'un luth, mais augmenté de la technique particulière à ce musicien, comme cette façon de pincer les cordes avec la main droite juste au-dessus du chevalet, avec le plus dur de l'ongle, pour donner une nuance furtive de tranchant et d'extrême tension de la note. Dans la cavotte finale, ce sera l'occasion pour nous tous d'une courte mais magistrale leçon de contrepoint. Pas de mécanique implacable comme on l'entend trop souvent, mais plutôt un univers chamarré, fait de digressions, d'apartés murmurés puis reprises aussitôt, et d'un texte central toujours clair, toujours sans temps. Raphaël Andia d'abord, puis Julian Bream. Bonne écoute. Thank you. Parcourons un peu la belle Europe, voulez-vous. D'abord descendre vers le sud, franchir les Alpes, ou bien longer la côte méditerranéenne jusqu'à Menton, entrer en Italie. Rallier Ferrare, y retrouver le maestro Legnani, Luigi Rinaldo Legnani. Nous voilà fin du XVIIIe siècle. La guitare connaîtra bientôt quelques changements morphologiques. Pour l'heure, le corps de l'instrument a peu changé. Il est toujours de taille réduite. La caisse de résonance est toujours peu profonde, d'où une sonorité encore douce, mais aigrelette, à forte dominante d'aigus. Les cordes médiums ont un caractère un peu plus nasal, mat, mais leur résonance presque métallique les font assimiler à de l'aigu. Les basses sont aussi peu marquées que définies. Seuls les instruments du XXe siècle sauront donner à la guitare des basses véritables et la rééquilibrer en donnant plus de volume et de profondeur à la caisse de résonance. Les guitares du XIXe siècle avaient cependant une attaque parfaite et une définition maximale de la note. Ceci créait une sonorité étale, jamais confuse. Tous les registres se retrouvaient à égalité. L'auditeur avait ainsi la perception la plus claire de ce qui se jouait. Cette guitare est tout bonnement insurpassable dès lors qu'il s'agit d'y jouer les musiques des XVIIIe et XIXe siècles et montre également de bien belles dispositions à restituer le baroque. Elle est toujours jouée et a encore bien des inconditionnels, dont votre serviteur. Mais revenons à Legnani. Il est un contemporain, ami très proche et distingué collègue de Paganini. Les deux se produisent en duo. Paganini reconnaîtra, sans se faire prier, le génie guitaristique de Legnani, qui se produisait en soliste à travers toute l'Europe. Il jouait sur une guitare qui lui était toute particulière, montée de 10 cordes. Il possédait une technique instrumentale que personne ne possédait à l'époque. Il jouait exceptionnellement, chantait divinement, et pour achever de nous agacer, il composera des suites instrumentales pour guitare seule qui seront une pierre d'angle pour le répertoire, un vrai repère historique. Il nommera ses pièces des caprices, à l'image de Paganini avec ses 24 caprices. Consignant l'évolution de la suite, qui était originellement une œuvre portée par un instrument soliste, exprimant toute sa palette sur un canevas qui répondait encore à l'ordonnancement et aux règles du bal royal, vers une expression purement instrumentale, tournée vers l'expressivité propre du dit instrument, ce en s'affranchissant si besoin des impératifs de la danse. La suite, et presque la suite royale, pourrait-on dire sans jeu de mots, avait vécu. Elle se dirigerait à présent vers ce qui deviendra la sonate. Legnani, dans ses caprices, écrira pour toutes les tonalités moins 2, qui sont, je crois, le do dièse mineur et le sol dièse mineur. Il faut se souvenir que la guitare, si elle est devenue au fil du temps un incroyable médium pour l'expérimentation, reste d'abord un instrument qui a ses humeurs et ses têtes, à savoir des registres favoris et d'autres que la dame n'aime pas. Et généralement, elle vous le fait savoir en vous pourrissant royalement l'existence si vous vous avisez d'essayer. Le travail de Legnani est d'immense valeur car il sera traité aussi de toutes ces tonalités réputées indociles et faire ainsi progresser le langage guitaristique autant que les possibilités et qualités expressives de l'instrument. Je vous propose d'écouter à présent le guitariste tchèque Pavel Seidel dans deux caprices de Legnani où vous noterez que 2 siècles avant D.R., pour Django Reinhardt, on ne boudait déjà pas son plaisir à dévaler la pente à fond de train. Bonne écoute. Thank you. Le 19e siècle sera également une période faste pour la guitare qui devra encore faire l'apprentissage d'un vocabulaire nouveau. À cette époque, toute l'Europe, nord et sud, plus la Russie, sont alors touchées par le romantisme, venu questionner et provoquer une musique tout en pesée d'esprit rigoriste et devenue une sorte de savante et distinguée routine. Frédéric Chopin, Robert et Clara Schumann, Liszt, Brahms, Mendelssohn, Schubert. Comment résister? Pourquoi résister? Passé les mois, une constatation s'impose. Le romantisme installe une société du piano, dédicataire quasi unique de toute l'œuvre romantique. Une fois de plus, et comme à chaque soubresaut, la guitare reprendra son vieux motif, s'adapter ou mourir. Seulement voilà, la musique romantique ne se laissera pas entreprendre aisément. Jamais une guitare, si bien jouée soit-elle, n'aura l'ampleur, l'ascendant, la profondeur, la richesse tonale et l'étendue d'un piano. De plus, les particularismes de la guitare, ceux-là même qu'on croirait parfaits pour la musique romantique, s'y avèrent impropres, voire totalement hors sujet. Trémolo, vibrato et compagnie ne font qu'emmener en Espagne vers des vacances incongrues et un peu risibles nos chers Franz, Robert et Frédéric. La Providence voudra qu'à Paris, à cette époque, on se bouscule dans les salons, les soirées privées et les salles de concert pour aller entendre un jeune interprète et compositeur du nom de Fernando Sor, tout juste arrivé guitare en main de sa chère Espagne. Fernando Sor sera une figure essentielle de la guitare pour le XIXe siècle. Il produira lui aussi à sa façon une suite de guitares, pleine à ras-bord de pièces d'études, plus ravissantes les unes que les autres, excessivement difficiles à bien rendre, leur simplicité compliquant singulièrement les choses parfois. D'autres pièces sont à destination des élèves plus avancés, le niveau requis s'élevant jusqu'aux virtuoses et à l'ambitieuse pièce de concert. Toutes les œuvres de Fernando Sor étaient, avant toute autre considération, à portée pédagogique, destinées à l'apprentissage de la guitare. Presque incidemment, ces pièces se sont trouvées à énoncer la singularité de la guitare et à participer de son affirmation. L'écriture de Fernando Sor citait sans limiter le piano romantique, en adaptant parfaitement certains de ses procédés techniques, ne transposant rien, mais recherchant l'exactitude dans la nuance. Ainsi, Fernando Sor, avec une légèreté confondante, a-t-il su rendre la guitare contemporaine, faire qu'elle ne soit plus tributaire d'autre qu'elle-même, être contemporain malgré soi, un peu par accident, comme au gré de la promenade. On pourrait dire « ça s'est trouvé comme ça ». L'idée me plaît assez, pas vous? Écoutons à présent un document sonore de 1940, sorti de mes archives. Une interprétation plus que magistrale de Fernando Sor par le roi guitariste Andrés Segovia. Voyez un peu comme je vous gâte. La captation est ancienne, le son peut vous paraître un peu âpre, guttural presque. Mais concentrez-vous sur l'interprétation et la richesse du jeu de Segovia qui atteint ici un sommet dans ses variations sur un thème de Mozart, opus 9. Thank you. le phénomène guitaristique est européen alors. Il faut ici faire mention du Hongrois Johann Caspar Merz. Il est fin guitariste, se produit dans l'Europe entière. Il est un compositeur de nature on ne peut plus romantique. L'homme se fixe au gré de son périple en Allemagne, en France, en Russie. C'est aussi un homme fragile qui mourra très jeune. Son écriture, comme celle de Sor, témoigne d'une compréhension et d'une maîtrise parfaite du ressort pianistique et de comment en donner la plus valide incarnation sur une guitare. Ses compositions font montre de beaucoup de lyrisme, de sensibilité mélodique autant qu'harmonique, dépeignant un être très intériorisé et riche de nuances et de finesse. Citons une œuvre maîtresse, Bardenklang, littéralement la sonorité du barde, la musique que fait le barde, que joue le barde. C'est une sorte d'opéra à une voix, monologue intérieur d'un instrument voyageant vers ses origines, sorte de grand papillon pleurant et cherchant sa chrysalide. Aucun pays d'Europe ne sera en reste. Les grands guitaristes et compositeurs abondent. Citons entre autres l'Espagnol Antonio Jiménez Manion, riche et très original compositeur et prodigieux instrumentiste. En Espagne, toujours les Tárrega, Rodrigo, Manuel de Falla ou encore Isaac Albéniz arrivent, et avec eux une ère majeure de la guitare, de la musique devrais-je dire. À cette époque, il est curieux de constater que l'Europe musicale est une réalité forte, vivant de diversité, d'originalité et de force de caractère. Écoutons à présent Unruhe, extrait du Bardenklang de Johann Caspar Merz, qui contient 24 feuillets, 24. Chiffre hautement musical, élu par Paganini, mais aussi par Debussy et ses 24 préludes. Je vous invite à me retrouver le mois prochain pour la suite de cette émission consacrée à la suite pour guitare seule. Merci à Simon Martin et je vous laisse sur Unruhe, donc extrait de Bardenklang, interprété ici en duo par Peter Peters et Micheline Dumortier. À noter qu'il joue ici sur deux guitares construites par François-René Lacote, luthier parisien du XIXe siècle et maître d'œuvre de la guitare romantique. Unruhe, soit sans repos, Johann Caspar Merz. Au revoir.